Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mardi 14 juillet 2014, en direct de 2015, en direct de Washington. Regassi Kouraï, Anne Albertson, à la une ce matin.
En Côte d'Ivoire, l'école est désormais obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans.
La cour d'appel de Niamey décide que l'affaire de trafic de bébés présumés doit être jugée devant un tribunal correctionnel.
Quant à la cour de justice de la CEDEAO, elle a invalidé hier le nouveau code électoral au Burkina Faso.
J'avais prévenu que si on laisse ça en l'état comme ça, nous risquons d'avoir des problèmes avec la justice. C'est ce qui est arrivé.
Voilà, la RDC est théoriquement passée de 11 à 26 provinces, une décision gouvernementale qui ne plaît pas à tout le monde.
M. Bouchard et M. Kabila veulent précipiter les choses pour désarticuler le Congo. Nous nous sommes opposés à ça, c'est anticonstitutionnel.
Et ne manquez pas la Minute Éco et les sports. Tout d'abord, le journal.
La Sierra Leone a annoncé hier une alerte sanitaire en raison de la fuite pendant quelques heures de deux malades d'Ebola de leur unité de traitement, alors que le pays tente d'enrayer la propagation de l'épidémie répartie à la hausse depuis près de deux mois. Jacques Aristide.
Les deux malades sont une femme de 32 ans et une fille de 8 ans, sans lien de parenté, qui ont réussi à s'échapper ensemble samedi matin de l'unité de traitement d'Ebola où elles étaient prises en charge à Hastings, dans la banlieue de Freetown, la capitale. L'information que rapporte l'AFP provient du Centre national de lutte contre Ebola. Toutes deux ont été retrouvées samedi dans la soirée. Les équipes d'enquête suivaient leur parcours pour identifier le nombre de personnes avec lesquelles elles ont été en contact durant la période de leur évasion. La semaine dernière, la Sierra Leone a annoncé la prolongation pour une durée indéterminée du couvre-feu nocturne en vigueur depuis le 12 juin dans des zones affectées des régions de Cambia et Port Loko dans le nord-ouest du pays.
A signaler aussi à ce sujet que le premier vaccin contre le virus Ebola qui serait inhalé au lieu d'être injecté s'est avéré prometteur lors d'essais sur des singes et selon des chercheurs, il devrait bientôt être expérimenté sur des humains. Cette étude est menée par des chercheurs de l'Université de médecine du Texas à Galveston et des Instituts nationaux de la santé.
En Côte d'Ivoire, l'école est désormais obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Une décision coûteuse pour le budget de l'État qui intervient à quelques mois seulement de la présidentielle Claire Morin-Gibault.
L'école obligatoire, l'une des grandes ambitions du président Alassane Ouattara, selon ses propres termes, entre donc en vigueur dès la rentrée prochaine. Cette politique de scolarisation obligatoire, annoncée trois mois avant la présidentielle d'octobre, va coûter 700 milliards de francs CFA à l'État, dont une grande partie devra payer les salaires de près de 5000 instituteurs et professeurs de collège qu'il faut désormais recruter. Cette décision est saluée par la société civile, même si beaucoup de problèmes restent entiers. Beaucoup d'enfants ne possèdent en effet pas d'acte de naissance leur permettant de s'inscrire à l'école. Et le recrutement massif d'un grand nombre de professeurs qualifiés peut également s'avérer problématique. Selon les chiffres du ministère ivoirien de l'Éducation nationale, près de 4 millions d'élèves ont fréquenté le primaire en 2014-2015. Et d'après l'ONU, le taux d'alphabétisation est de 56,9% pour les adultes, contre 67,5% pour les jeunes. Des chiffres relativement faibles pour un pays qui se veut leader en Afrique de l'Ouest francophone.
En République démocratique du Congo, Human Rights Watch demande au gouvernement et à la mission des Nations Unies d'arrêter Sylvestre Muda Chumura, le chef des FDLR, rébellion à dominante rwandaise. Muda Chumura est sous le coup d'un mandat de la Cour pénale internationale depuis trois ans. On écoute à ce sujet Anneke van Wunderberg, la chercheuse principale à la division Afrique de Human Rights Watch.
Son groupe continue à commettre des violations de droits de l'homme. Et juste dernièrement, il y a quelques mois, il y avait un directeur d'une école et son fils qui, selon les FDLR, ont donné des informations à des autorités de où se trouve un groupe des FDLR. Et les FDLR avaient décapité ce directeur de l'école et son fils. Ils ont mis les têtes sur des bâtons en vue de tout le monde. Donc c'est cette type d'atrocité qui continue. Le moment est venu que ce monsieur est arrêté. Je suis sûre que le gouvernement congolais et les casques bleus de la MONUSCO ont la capacité d'arrêter Sylvestre Mudacumura. Les choses qui manquent, c'est une stratégie pour identifier où il se trouve et une stratégie pour l'arrêter. 3 ans après que ce mandat d'arrêt était lancé par la Cour pénale internationale, nous tous, nous attendons son arrestation.
Toujours concernant la RDC, Martin Kobler, le chef de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, affirme qu'il encourage le gouvernement congolais à ouvrir les fosses communes abritant les corps des victimes du massacre de Maluku. On écoute Martin Kobler.
On ne peut pas donner une réponse claire parce que les fosses communes ne sont pas ouvertes. Il faut ouvrir les fosses communes et puis on peut déterminer. La solution est bien simple. Mais nous n'allons pas ouvrir les fosses communes, c'est au gouvernement de le faire. Et on encourage le gouvernement d'ouvrir et exhumer les corps des fosses communes.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné lundi l'attentat suicide dans le nord du Cameroun et appelé à renforcer la coopération régionale contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram. M. Ban condamne avec force l'attaque qui a fait au moins 11 morts à Fotokol. Dimanche soir, indique un communiqué de l'ONU, il exprime son soutien au gouvernement camerounais et aux pays de la région et les encourage à renforcer encore leur coopération pour contrer la menace de Boko Haram.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a remplacé la totalité de son commandement militaire en vue de stimuler la lutte contre les militants de Boko Haram. M. Buhari a remplacé les chefs d'état-major de l'armée, de la marine et de l'armée de l'air du pays. Il s'est aussi séparé de son chef de renseignement militaire et son conseiller à la sécurité nationale. Il faut dire que ces officiers avaient été nommés par son prédécesseur.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Grèce a de nouveau fait défaut sur sa dette vis-à-vis du Fonds monétaire international en n'honorant pas un remboursement de 456 millions d'euros qui était dû hier lundi. C'est ce qu'a annoncé l'institution de Washington dans un communiqué cité par l'AFP. Athènes avait déjà manqué le 30 juin dernier un premier remboursement d'1,5 milliard d'euros, devenant ainsi le premier pays industrialisé à accumuler des arriérés de paiement vis-à-vis du FMI.
Les autorités chinoises font l'objet de fortes critiques pour avoir appréhendé et interrogé plus de 100 avocats et activistes des droits humains dans les récents jours. Certains considèrent cette campagne comme la pire répression lancée en Chine depuis 2 décennies, chez Robin Dorsil.
Selon une association d'avocats chinois basée à Hong Kong, 114 avocats et activistes défenseurs des droits humains venant de 18 provinces ont été convoqués par les autorités. Au moins 22 d'entre eux sont toujours en détention. Parmi les détenus figurent quelques-uns des avocats de droits humains les plus réputés du pays. Certains ont été contraints à la confession publique. La télé nationale a montré hier Zhai Yanmin admettant que ses camarades et lui avaient commis des actes ayant de graves conséquences pour la société chinoise. Cependant, l'historien chinois Zhang Lifan pense qu'avec cette campagne de répression, la justice a reculé en Chine. Cette opération elle-même peut être vue comme un recul pour l'état de droit, car défendre les droits du peuple est une activité régulière pour les avocats et ceux-ci agissent dans le cadre des prescrits de la loi, dit-il. Le département d'État américain se dit préoccupé par cette vague d'arrestations et la violation des droits humains en Chine.
En Irak, les autorités ont annoncé hier le début d'une offensive pour reprendre la province d'Anbar des militants du groupe État islamique. Ces derniers contrôlent de vastes territoires, y compris les villes de Ramadi et de Fallujah. Selon une annonce télévisée, l'opération comprendra des troupes irakiennes, mais aussi des combattants chiites et sunnites.
La ville de New York, ici aux États-Unis, annonce avoir conclu un accord amiable de 5,9 millions de dollars avec la famille d'un homme noir mort à l'été 2014 lors d'une interpellation musclée par la police. Le contrôleur général des finances de New York, Scott Stringer, a annoncé lundi l'accord conclu avec la famille du père de 6 enfants. Eric Garner, il faut le dire, 43 ans, soupçonné de vente illégale de cigarettes, avait été plaqué au sol par plusieurs policiers blancs le 17 juillet 2014 à Staten Island à New York après avoir tenté de résister.
Le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter, propose d'ouvrir l'armée américaine aux transgenres. Ces derniers n'ont pas le droit de servir et peuvent être chassés de l'armée s'ils dévoilent leur identité. Dans un communiqué lundi, le ministre a mis en place un groupe de travail chargé d'étudier les conséquences pour l'armée d'une telle ouverture et de remettre un rapport dans 6 mois, a-t-il indiqué dans une déclaration remise à la presse. Selon Human Rights Campaign, la plus importante des associations défendant les transgenres, ceux-ci seraient environ 15 500 dans l'armée américaine aujourd'hui.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Et ce matin, c'est avec Nathalie Barge.
Le groupe autrichien Constantia Flexibles a racheté la société sud-africaine de packaging Afripak. Une annonce faite par la société d'investissement Wendel qui contrôle 73% du capital du groupe, indique l'agence Ecofin. Afripak a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 113 millions de dollars en 2014. Basée à Durban, c'est la deuxième plus grande société de packaging flexible en Afrique subsaharienne. Afripak dispose de 6 unités en Afrique du Sud et de 2 sites de production au Kenya et à Maurice. Un Rwandais a créé une application pour envoyer de l'argent en Afrique, rapporte le portail d'actualité Nofi. En plus d'être simple à utiliser, l'application ne coûte à l'expéditeur que 5% de frais de service, comparé aux 12% de Western Union, c'est MoneyGram, a dit à Point Afrique Louis-Antoine Mouiré, fondateur de Mergims. L'autorité intergouvernementale pour le développement a appelé les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et d'autres gouvernements à reconsidérer leur décision de fermer les comptes bancaires des opérateurs somaliens de transfert d'argent vers la Somalie, entre autres pays de la région, jusqu'à ce qu'une solution globale soit trouvée pour combattre les transferts illégaux de fonds, rapporte l'agence de presse africaine. Dans un communiqué, l'IGAD a exprimé sa préoccupation quant aux risques humanitaires et sécuritaires que pose cette décision et a salué la création du conseil consultatif par la Somalie et l'initiative régionale pour la mise en place de canaux sûrs, transparents et légaux d'envoi de fonds.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, c'est l'heure des sports et j'accueille Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour Bagassi.
En football, on prend les mêmes et on recommence à la tête de la sélection tunisienne.
Oui, la Fédération tunisienne de football annonce la nomination de Henri Kasperzak comme sélectionneur. Remercié par le Mali après la Coupe d'Afrique des Nations 2015, le franco-polonais avait déjà occupé ce poste de 1994 à 1998.
Championnat de Côte d'Ivoire, 23e journée, match en retard.
Oui, l'Africa Sport qui a battu la JCA de Trècheville 1-0. On rappelle qu'hier, l'ASEC Mimosa n'a pu faire que match nul à domicile contre le Dengele d'Odiéné. Pour le moment, l'AS Tanda compte toujours 3 points d'avance dans ce championnat ivoirien.
Et en rubrique transfert,
le milieu de terrain sénégalais Moustapha Diallo a prolongé de 2 ans son contrat avec Guingamp. Il est désormais lié au club breton jusqu'en juin 2018. Et le milieu offensif Ronaldinho, champion du monde avec le Brésil en 2002 et Ballon d'Or 2005, a signé avec le club de Fluminense. La formation de Rio de Janeiro a publié sur Twitter une photo du joueur âgé de 35 ans arborant le maillot du club. Sachez également que Robin Van Persie a signé son contrat avec le club de Fenerbahçe. On se souvient que dimanche soir, l'international néerlandais était arrivé dans la ferveur à l'aéroport d'Istanbul. Selon la presse turque, le montant de son transfert de Manchester United vers Fenerbahçe est de 4,7 millions d'euros.
Le président du Real s'explique autour du cas Iker Casillas.
Oui, Florentino Pérez a nié avoir poussé au départ Iker Casillas, l'emblématique gardien du club, qui a signé, je vous le rappelle, avec le FC Porto après 25 ans de carrière au sein du club madrilène. Après des adieux baignés de larmes, c'était dimanche, lors d'une conférence de presse solitaire de Casillas. Le président Pérez était aux côtés du gardien champion du monde avec l'Espagne en 2010 pour un hommage devant la foule des fans au stade Santiago Bernabéu, démentant les rumeurs selon lesquelles Casillas aurait été poussé vers la sortie pour faciliter l'arrivée de David De Gea, l'international espagnol de Manchester United âgé de 24 ans, soit 10 ans de moins que Casillas. Pérez a assuré que Casillas avait lui-même demandé son transfert vers le club de Porto.
Un cyclisme, triste nouvelle au Tour de France.
Ivan Basso de l'équipe Tinkoff souffre d'un cancer des testicules. Le coureur a découvert lors d'un examen médical pratiqué en marge du Tour de France sa maladie. C'est ce qu'il a annoncé hier lors d'une conférence de presse. Ivan Basso est âgé de 37 ans.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au Niger, donc, pour commencer donc la partie magazine de cette édition, on commence donc par le Niger où la cour d'appel de Niamey a décidé hier que l'affaire de trafic présumé de bébés doit être jugé devant un tribunal correctionnel. Une vingtaine de personnes sont poursuivies, dont l'ancien président du Parlement, Ama Amadou, qui a fui le Niger et qui a trouvé refuge en France en août 2014 en dénonçant un complot politique. Idriss Fall a recueilli la réaction de Maître Souley Ouamaru. Il est l'un des avocats à Niamey.
C'est une décision qui veut dire, parce que vous savez, la première décision, le juge estimait qu'il y avait un certain nombre de conditions qui doivent être réunies avant qu'éventuellement il puisse avoir une saisine du tribunal correctionnel. Ces conditions ne sont pas remplies, il n'était pas compétent pour connaître des faits. Et le président de la République a fait appel contre cette décision. Et nous avons plaidé devant le président de la Cour d'appel de Niamey, qui, comme vous le savez, a énormément de contentieux avec le président Mahamat depuis un certain nombre d'années. Et nous avons choisi de plaider devant lui que cet affaire qui existe et ces incompréhensions inimitiées qu'il y a entre lui-même et Hama puissent être soldées. Et nous avons pensé que c'était la meilleure occasion pour le président de la Cour d'appel de montrer son impartialité, son objectivité dans un dossier qui concerne une personne compétente, son ennemi personnel. Hélas, ça a été un rendez-vous manqué. La Cour d'appel a donc annulé la décision du premier juge. C'est le tribunal correctionnel qui va connaître des faits s'agissant d'un délit. Et nous allons faire le débat éventuellement ou alors faire un pouvoir en cassation pour montrer que le juge d'appel s'est grossièrement trompé quant à la prescription des faits sur sa compétence.
Maintenant, qu'est-ce qui va se passer et quelle est la différence donc qu'il soit jugé par un tribunal correctionnel?
La différence, c'est que c'est une infraction un peu spéciale qui n'est pas courante dans la législation des pays et qu'il faut des plaintes préalables de l'État concerné. Il n'y a pas eu de plainte. Ils ont envoyé une équipe d'enquêteurs. Il n'y a eu aucun rapport de police des autorités du Nigeria. Il n'y a aucun juge du Nigeria qui a posé des faits. Ils ont envoyé le commissaire d'affaires qui n'a jamais été exécuté. De telle façon qu'il n'y a aucun acte d'instruction ou d'enquête qui a été diligenté par les autorités du Nigeria dans cette affaire. Et nous estimons que le Nigeria ne peut pas se substituer au Nigeria pour connaître des faits qui n'ont pas été commis sur son territoire.
Mais apparemment, vous aviez demandé la levée du mandat d'arrêt contre Hama, mais ça a été refusé aussi.
En fait, on n'avait pas besoin de le demander. Dès lors qu'un juge est incompétent, par définition, un juge incompétent ne peut pas donner un mandat de dépôt d'arrêt. Le premier juge s'est déclaré incompétent. On n'avait même pas à demander la levée du mandat d'arrêt. Mais on voulait tester la bonne foi du juge. Et il nous a répondu comme on s'y attendait. L'objectif pourquoi il faut prévenir ce mandat d'arrêt, c'est tout simplement pour empêcher qu'à l'échéance de janvier-février 2016, Hama Abadou ne soit pas partant aux élections. Et d'ailleurs, je vous dis que sur la BBC, un membre important du parti Tareya a dit que cette affaire-là dépasse Hama, c'est une affaire d'État. Et il faut le répéter comme ça quelques jours avant de délibérer. Deuxième élément également très important qu'il faut noter, ce sont les propos de Bazoum et d'Awaga, quand il a dit lui-même qu'il s'agit d'une affaire politique, qu'il s'agit de régler le compte de Hama Abadou. Donc, ce n'est pas d'autres. Des politiques s'en sont mêlées, sont estimées pour qu'il faudrait que Hama rentre de gauche par rapport aux élections de 2016. Tout le reste là, ce n'est que du vernissage, ce n'est que de la décoration, il s'agit d'une station sorcière, et que dans tous les cas, on va nous battre jusqu'au bout, et nous ne serons pas justement que les autres prévoir cette affaire.
Voilà, c'était Maître Souley Ouamaru, avocat à Niamey.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez, et sur Radio Dalol FM à Dongondjouti.
La Cour de justice de la CEDEAO, qui siège à Abuja au Nigeria, a tranché hier en faveur du CDP, le parti de Blaise Compaoré, dans le litige qui l'opposait à l'État burkinabé concernant le code électoral. La Cour de justice estime que le nouveau code électoral du Faso fait une violation des droits de l'homme, des libertés d'opinion et des libertés politiques. Reportage sur cette donne qui ouvre une autre bataille politico-judiciaire au Burkina. Soumana Wonogo est notre correspondant à Ouagadougou.
Après le vote du nouveau code le 7 avril passé, nous avons approché le président du Conseil national de transition, qui a valeur d'assemblée, autour de la disposition sur l'exclusion. Revivons cet échange avec le président Chérif Sy.
Je ne sais pas qu'est-ce que vous comprenez pas dans la formulation. On a dit que tous ceux qui ont contribué, soutenu une modification anticonstitutionnelle. Mais ce qu'il faut retenir, qui remet en cause le principe de l'alternance et qui conduit à une insurrection. Il y a eu 20 insurrections ici.
Avec le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO en défaveur de l'État burkinabé, le député Alexandre Sankara nous a confié ceci.
C'était prévisible. Pendant le vote de cette loi, lors de la plénière, j'ai personnellement attiré l'attention de mes collègues députés sur justement l'imprécision de cette loi. Et j'avais prévenu que si on laisse ça en l'état comme ça, nous risquons d'avoir des problèmes avec la justice. C'est ce qui est arrivé. Non seulement la loi était imprécise, mais les griefs qu'on a visés pour voter cette loi ne tenaient pas. Parce que l'article de la modification de l'article 37 n'est pas anticonstitutionnel parce que la Constitution elle-même prévoit que certains de ces articles peuvent être modifiés, dont l'article 37. Or, nous dit que ce qui a été fait là, c'est anticonstitutionnel. Or, ce n'est pas anticonstitutionnel. Deuxièmement, on dit que ça tendait à remettre en cause la limitation du nombre des mandats, ce qui n'est pas aussi vrai, puisque dans le projet de révision de l'article 37, on limitait le mandat à 3.
C'est avec une joie non feinte que le président du CDP, le parti de Blaise Compaoré, apprécie ce verdict favorable. Suivant Eddy Kamboyego.
La cour de la CEDEAO a condamné le Burkina à revoir le code électoral pour permettre à ce que tous ceux qui souhaitent être candidats puissent l'être. Et c'est cela qui nous donne une raison de satisfaction, pas seulement pour notre parti, le CDP, et pas seulement pour les partis de l'ex-majorité. Et c'est tout le Burkina qui gagne. Et au-delà du Burkina, c'est l'Afrique qui gagne. Que nos populations puissent toujours se réconcilier, qu'il n'y ait pas de division. Et s'il y a des diversités de pensées, que les diversités de pensées puissent se traduire en programme dans les partis politiques et que nous allions voir nos électeurs. Que les électeurs soient le seul censeur du politique, c'est-à-dire à travers les urnes.
Maintenant que le vin du code électoral est tiré, comment le boire? Va-t-on modifier le code électoral pour se conformer aux dispositions de la CEDEAO qui, en même temps, interdit à ses pays membres de modifier leurs lois 6 mois avant les élections? Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et toujours, concernant cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO, l'opposant Benewende Sankara, lui, reste dubitatif face à ce verdict.
Si on doit faire une interprétation de cette décision de justice, je pense que c'est une décision qui devrait s'imposer sans aucune difficulté, parce qu'en réalité, demander à l'État du Burkina Faso de lever les obstacles à une participation, bien sûr que l'État du Burkina va aviser. Mais de quel obstacle s'agit-il? Je pense que c'est à ce niveau que tout le débat va certainement se poser. Parce qu'en lisant le corps de la décision, on a l'impression que ce qui est reproché à la loi du 7 avril, c'est son manque de clarté, de précision. On estime que la loi était ambiguë.
Est-ce qu'il faut laisser les acteurs politiques de l'ex-majorité présidentielle aller aux élections d'octobre prochain?
Quand vous dites les acteurs politiques de l'ex-majorité, le problème c'est de savoir lequel des acteurs. La Cour dit, par exemple, qu'il faut s'en tenir aux dirigeants. Mais quand on sait que, par exemple, à l'Assemblée nationale du Burkina Faso, l'Assemblée nationale qui a été littéralement mise en flamme, ce sont des députés de cette même ex-majorité qui s'apprêtaient à voter la loi. Et ils sont connus. Avant l'insurrection, ils ont été signataires d'un document qui a été publié. C'est connu. Vous avez également les responsables, les dirigeants de partis politiques. Vous avez les membres du gouvernement qui ont eu à prendre une décision très grave, c'est-à-dire le projet de loi incriminé. Mais je comprends bien sûr que la Cour ne veut pas une osmose, ne veut pas étendre justement cette inéligibilité jusqu'aux citoyens lambda en ce qui concerne par exemple les élections municipales qui sont des élections de proximité. Mais tout cela est discutable. Voilà pourquoi je dis qu'il va falloir certainement dire quels sont les obstacles que l'État de Burkina Faso devrait lever. Peut-être qu'on va se référer au Conseil constitutionnel qui entrera en voie d'interprétation.
Voilà, c'était l'opposant burkinabé Benewende Sankara. Il a été joint à Ouagadougou par Rachid Bouda.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
La RDC est théoriquement passée de 11 à 26 provinces. La période du 27 au 31 juillet décrétée par le gouvernement pour l'élection des gouverneurs de ces 26 provinces fait des vagues. Le nouveau découpage territorial qui s'est fait progressivement est en vigueur depuis le 11 juillet. Deux premières provinces, la province orientale et l'Équateur, sont déjà disséquées. Eh bien, Eddy Sango a recueilli la réaction du député et président de la plateforme de l'opposition FAC, Force acquise au changement, Martin Fayoulou.
On n'a pas encore eu les élections pour avoir les députés provinciaux selon les nouvelles provinces. M. Bouchard et M. Kabila veulent précipiter les choses pour désarticuler le Congo. Nous nous sommes opposés à ça. C'est anticonstitutionnel. Les députés provinciaux actuels ont été élus d'après le format 11 provinces. On ne peut pas demander aux gens d'aller selon leur district à l'origine et puis aller constituer un parlement provincial, une assemblée provinciale et élire les gouverneurs pour les provinces nouvellement installées. Non, nous trouvons que c'est une supercherie. C'est Kabila, comme nous avons toujours dit, il est en train de multiplier des initiatives. Voilà la dernière initiative qu'il a trouvée, c'est d'installer ces gens et les 26 provinces vont crier pour dire bon, ben voilà, maintenant il faut garder l'argent de la République pour développer les 26 provinces et non aller à l'élection présidentielle. C'est que M. Kabila cherche pour demeurer éternellement au pouvoir, mais il se trompe parce que le peuple congolais ne le laissera pas faire. M. Kabila a dit en 2009 que mettre en place les découpages, c'était hasardeux parce que, un, on n'avait pas d'argent, deux, ça pouvait amener à la balkanisation de ces pays. C'est lui qui l'a dit. Et pourquoi il va le faire aujourd'hui?
Le président Joseph Kabila a dit qu'il veut plutôt mettre en œuvre ce que prévoit la Constitution depuis même la Conférence nationale souveraine.
Nous avons voté la Constitution depuis 2006 et pourquoi la compagnie en place les 26 provinces? Ils ont changé la constitution en 2011. Ils ont dit qu'il y aura une loi de programmation. La loi de programmation veut dire quoi? Il faudrait d'abord s'assurer que les démantèlements des provinces, si par exemple le province de Bandundu doit maintenant être démantelé et passer à trois, est-ce que c'est viable les trois nouvelles provinces?
Si les élections n'ont pas lieu aux dates fixées par les gouvernements, ne serait-ce pas déjà les glissements parce que les gouverneurs resteront au-delà de leur mandat à leur poste.
Ce n'est pas au gouvernement de fixer la date des élections. Les gouverneurs ont été élus pour un mandat de 5 ans. Depuis 2007, ils ont été élus. Ils ont déjà glissé. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas tant les gouverneurs. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il y ait élection présidentielle en novembre 2016 et élection législative nationale pour permettre d'avoir un parlement, d'avoir une assemblée nationale.
Voilà, c'était Martin Fayoulou, il est député de l'opposition à Kinshasa.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, une série de reportages sur l'après-tuerie de Charleston aux États-Unis, relations entre blancs et africains-américains, port d'armes, actes qui relèvent du terrorisme. Quels sont, d'après vous, les enseignements que peuvent tirer les Américains de cette fusillade de trop? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Londonien célèbre, BAC de London, Richard Botoli, Max Chibouye, groupe Chibi Service, Papa na Max Chibouye.
Namatoi na yoka kisa Wilfried Bambili yopo ingai Nzo kamalo
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique sur la voix de l'Amérique en direct de Washington. Et bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Et un grand merci à toute la rédaction de VOA Afrique. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.